Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de prendre soin d'une personne malade. Et pendant les échanges au sujet du déroulement du traitement, il a été question de tatouage. En effet, lorsque nous prenons soin des patients, à certains moments, on appose des tatouages sur leur peau pour pouvoir se repérer au moment où ils reviennent pour les traitements. Alors, pendant qu'on discutait, la dame en profite pour me signaler que la semaine qui suit, elle a rendez-vous avec sa fille justement pour se faire des tatouages. Sa fille est fan de tatouages et elle en porte un certain nombre. Et elle me dit, ma fille m'a convaincu d'en faire. Et sur ce, je lui pose la question, qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce qu'elle vous a dit au sujet des tatouages? Alors elle m'explique que sa fille fait un métier dangereux et que chaque fois qu'elle sort, elle, la mère, elle est angoissée parce qu'elle n'est pas sûre que sa fille reviendra. En effet, elle a, parmi ses collègues, deux qui sont décédés lors de sorties. Sa fille, elle est policière. Et donc, le rendez-vous qu'elles avaient, c'était pour que sa fille aille se faire tatouer un loup sur le corps. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, mais c'est une protection efficace. C'est très efficace. À ce discours, je n'ai pas fait de commentaire. Je pense que nous aurons l'opportunité de peut-être en discuter une prochaine fois. Mais vous vous doutez que ça m'a piqué. La protection est un tatouage de loup sur la peau. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous un psaume de David qui parle du Seigneur comme le seul refuge. Seul l'Éternel est digne de foi. C'est le titre de notre méditation et c'est au psaume 62. Avant cela, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons être à ton écoute. Dispose notre cœur à recevoir ce que tu as pour nous. Merci que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir agi selon ta volonté dans nos cœurs. En Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors je vous propose de lire maintenant au psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Il conspire pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Alors, le contexte de ce psaume, au regard des éléments qui s'y trouvent, notamment versets 4 et 6, 4 à 6, certains commentateurs considèrent qu'il s'agit de la révolte d'Absalom. Absalom était le fils de David et il a décidé de rentrer en révolte contre son père parce qu'il convoitait le poste, il convoitait la place de David. Et de manière subtile, Absalom est allé demander à son père la permission d'aller à Hébron pour y réaliser un vœu qu'il avait fait. Et son père, tout en joie, lui dit « Vas-y, mon fils, tu as ma bénédiction. » Mais c'était l'occasion pour Absalom d'une conspiration qui allait être un moment douloureux pour David à passer. Lorsque David a été informé de la conspiration, il a quitté la ville. Il a quitté Jérusalem pour une destination inconnue. Et surtout, très loin d'Absalom et de ses fidèles. Ce récit, vous le trouvez en 2 Samuel, au chapitre 15. Et dans le texte que nous avons lu, nous retrouvons ces mots, ces expressions, conspiration, faire tomber de son poste élevé, mensonge, bénir de la bouche et maudire dans le cœur. Nous voulons considérer ce texte en trois sections. Et chacune commence par « oui ». Nous y reviendrons plus tard en parlant de ce « oui ». Et la première section met en évidence la réalité de notre vie. En effet, comme cela a été dit au sujet du contexte, le psalmiste se trouve confronté à une situation inédite. Faut-il se battre pour le trône et avoir en face de soi son fils? David fait le choix d'éviter une telle confrontation. Il est difficile de penser à la bonne réaction dans une situation de trahison, mais surtout lorsque cela vient de votre propre sang, de votre famille, de votre enfant. Et cette situation montre à suffisance que servir le Seigneur ne signifie pas absence d'épreuve. Et quelle épreuve pour David? En 1 Samuel 13, verset 14, lorsque l'Éternel décide d'enlever le magistère royal à Saül, il fait le choix, par la bouche du prophète Samuel, d'un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de l'Éternel. David est cet homme dont parle Samuel. Malgré le fait qu'il était l'homme selon le cœur de l'Éternel, David n'est pas à l'abri de l'épreuve. Aucun humain n'est exempt de connaître des difficultés. Et c'est peut-être aussi un avertissement pour nous. Dans un monde qui va vite, où l'on veut absolument profiter de la vie, ces notions n'épargnent pas l'Église. Elle est parfois confrontée à cette réalité et elle essaye d'y répondre. Et c'est pour cela qu'on peut voir l'émergence de certains courants de pensée qui rejettent la souffrance. Ils rejettent l'épreuve, la difficulté. Les humains veulent devenir des jouisseurs permanents des bonnes choses que le Seigneur donne. L'homme selon le cœur de Dieu quitte son trône pour une aventure. Il est instructif d'observer l'attitude de David dans le calme, malgré la tempête qui s'abat. Il agit. Par deux fois dans cette section, David dit oui à l'Éternel. Ce qu'il a de plus cher, c'est de confier son âme à Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. On a le sentiment d'un homme qui veut se rassurer, qui veut s'assurer que ce qu'il a toujours pensé, ce qu'il a vécu jusque-là, reste une réalité. Quand tout va bien, il est possible que la foi se présente comme quelque chose de banal. On peut être en mode automatique. On va à l'église, on prie, enfin, la vie de tous les jours. Et puis, face au danger, les choses changent. David prend une attitude différente. Il s'arrête. Il fait le point. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Est-ce que ma foi, elle est vraiment en Christ? Elle est vraiment en Dieu, complètement? David a certainement raison. Il peut se souvenir du jour où son fils lui demande de se rendre à Hébron. Il peut se rappeler qu'il a eu pour conseiller cet homme, Achitophel, qui va le trahir. Il a peut-être revu la vie d'Absalom depuis sa naissance jusque maintenant. Bref, dans de telles circonstances, en quelques instants, défilent de nombreuses images dans notre vie, dans notre tête. On cherche peut-être à comprendre la faute qu'on a commise. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela vient-il de mon enfant? Ces hommes ont trahi. Ils ont en fait laissé transparaître ce qui est dans le fond de leur cœur, la convoitise et la méchanceté des cœurs éloignés de l'Éternel. Ces adversaires déclarés ont-ils flairé une situation de faiblesse? La faiblesse du roi, ils se disent, c'est le bon moment d'agir. Le texte n'est pas précis là-dessus. Toujours est-il que le psalmiste décrit une situation de faiblesse quand il parle d'un mur qui penche comme une clôture qui s'écroule. Ses ennemis se disent, finissons-en avec lui. Ils se jettent sur lui comme on se jette sur une proie pour lui enlever le souffle qui lui reste, ce souffle qui lui permet encore de tenir quelques moments. Si d'un côté le mal attire l'ennemi, de l'autre, la puissance suscite la convoitise. Le poste élevé est quelque chose à ravir. On rêve et on veut accéder à cette position élevée. On se dit, mais pourquoi pas moi? Et parfois on pense, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi, je pourrais aussi être là. Je devrais aussi être là. On imagine que le travail accompli par celui qui est en poste n'a rien de consistant, n'a rien d'impressionnant. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'y être. Alors on conspire pour trouver le moyen de saisir l'objet de notre convoitise. Et par la même occasion, on fait tomber la personne en poste. Tous les moyens sont utiles pour y accéder. Dans ce cas, le psalmiste dévoile le mensonge auquel prennent plaisir ses ennemis. Ils disent une chose, ils pensent une autre. Absalom promet à son père d'aller à Hébron pour réaliser un vœu. Et qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? C'est tout autre chose, n'est-ce pas? Et cela nous questionne sur notre vécu en Église. Ces volontés de pouvoir, d'accéder à des fonctions, ne nous guettent-elles pas parfois? Et quelle est notre réaction face à cette convoitise qui naît dans le cœur? David n'a jamais demandé à accéder à cette position de roi. Il a été choisi par l'Éternel. Et au moment du choix d'un successeur à Saül aux yeux des hommes, David n'avait pas le profil. Et quand vous allez lire l'histoire de ce choix, vous verrez que le père de David, Isaïe, a présenté à Samuel 7 de ses garçons. Il a fallu que le Seigneur dise à Samuel, non, ce n'est pas eux. Et Samuel pose la question à Isaïe, n'as-tu pas un autre enfant? Pourquoi? Parce que pour Isaïe, non. Et nos regards sont aussi ceux-là. Lorsque nous regardons ceux qui sont en face, ils n'ont pas le profil. Mais le Seigneur connaît le cœur. Il a choisi celui qui est selon le cœur de l'Éternel. Dans son malheur, David fait le point. Il conclut dans une sorte d'auto-encouragement. Je ne serai guère ébranlé, dit-il au verset 3. La deuxième strophe de ce psaume commence comme la première. Je rappelle que les psaumes étaient chantés. C'est pour cela qu'on peut parler de strophe, n'est-ce pas? Cette deuxième strophe introduit, elle est introduite comme la première. Les versets 6 et 7 sont pratiquement identiques aux versets 2 et 3, à la différence qu'au verset 2, le salut est remplacé par l'espérance. L'Éternel est mon espérance. Et le verset 6 est remplacé par le « je ne serai guère ébranlé » est remplacé par « je ne serai pas ébranlé ». On a ici le sentiment d'une assurance. On voit un David qui, dans son malheur, avance avec assurance, une assurance ferme dans le Seigneur. David reconnaît dans l'espérance son incomplétude, son besoin de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui a été perdue en Éden à cause de la désobéissance de nos ancêtres. Et si David doit s'accrocher à quelque chose, ce n'est pas au trône de Jérusalem, c'est à l'attente de l'action de Dieu dans sa vie. David ne se détourne pas du trône par dépit. Il sait où sont les priorités. Au psaume 33, le verset 20, il est écrit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Les versets 8 à 9 décrivent le Dieu que sert David. Et s'il est normal que dans notre vie des épreuves arrivent et que l'on en parle, David nous enseigne qu'il est préférable d'avoir dans ses pensées l'Éternel. La gloire qui vaut la peine d'être saisie est celle qui vient de l'Éternel. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu, déclare David. C'est impressionnant de lire ce psaume et dans ce passage de réaliser la transition qui s'opère en cet homme. Au verset 9, ce que David vit dans la présence de Dieu est extraordinaire, au point qu'il invite « Peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. » David est conscient que tous les hommes ont besoin du Seigneur. Comment ne pas vouloir partager un trésor comme celui de connaître le Seigneur? Il ne s'agit pas d'un trésor qui soit une propriété privée, quelque chose à garder pour soi, à cacher parfois. Dieu se révèle à qui il veut, et pourtant il choisit des hommes pour le faire connaître, pour faire connaître son nom. David porte la bonne nouvelle au peuple. Oui, en l'Éternel, il est possible de connaître le repos, la protection, vivre cette espérance, cette dépendance à Dieu que rien ni personne ne peut offrir. Et c'est une expérience si merveilleuse que la gloire du monde pâlit devant l'offre de l'Éternel. Une relation entre père et fils, une relation entre un père et ses enfants. David déclare « Sur Dieu repose mon salut, ma gloire. » Dans l'Évangile, l'Évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 68, nous avons une déclaration aussi puissante que vient faire l'apôtre Pierre après un discours sur l'absolue nécessité de manger la chair de Christ et de boire son sang. Cette déclaration a fait fuir beaucoup de disciples. Jésus pose la question à ceux qui restent en leur disant « Et vous ?» Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Pierre fait cette déclaration extraordinaire. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. David, comme Pierre, n'indique aucun autre lieu de repos. Aucune autre personne en laquelle nous pouvons trouver du refuge, nous pouvons trouver du repos. Nous pouvons avoir un refuge sûr une protection garantie. Tout est en l'Éternel. La troisième strophe explique pourquoi. Pourquoi est-ce que David va jusqu'à inviter ses peuples? Pourquoi est-ce que David est capable de dire que nous n'avons en aucune personne, en aucun lieu, un quelconque refuge? L'humain est évanescent, c'est-à-dire que l'humain est appelé à disparaître. Il ne pèse rien. Il a le poids d'un souffle, un souffle qui s'évanouit. Pire, il n'y a rien à attendre des hommes. Le psalmiste les identifie au mensonge. On pourrait penser à une égalité sur le plan mathématique en disant « humain égale mensonge ». C'est dur d'entendre cela. Parce que nous connaissons des gens qui sont bien, nous connaissons des gens qui sont gentils, qui sont appréciables. N'est-ce pas que le dicton populaire dit « on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Et pourtant, la parole de Dieu déclare en Jérémie 17, verset 9, « le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Cette douloureuse expérience, David l'a faite au travers des agissements de son fils avec d'autres. Il fait le constat de ce qui est attaché au cœur humain, la violence. Absalom est prêt à prendre l'épée face à son père. La traîtrise, comme nous en avons parlé, le conseiller du roi s'allie son fils pour combattre le roi. La convoitise des biens matériels. David parle de pillage, de richesses qui augmentent. Le psalmiste dresse un tableau peu reluisant des choses qui habitent notre cœur, le cœur des hommes. Et dans cette dernière strophe, nous avons un tableau avec d'un côté l'homme et de l'autre côté l'Éternel. David parle et présente un Dieu vivant. L'Éternel n'est pas un Dieu fait de bois. Il n'est pas un Dieu insensible à la vie des hommes, des humains. C'est un Dieu qui parle et il dit deux choses. Deux choses que s'empresse David de nous révéler. La première, c'est « la force appartient à l'Éternel ». N'avons-nous pas souvent la tentation de penser que l'humain est devenu tout-puissant? Cette idée est recusée par le psalmiste. C'est Dieu qui sauve et il le fait encore aujourd'hui. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Et la fin tragique d'Absalom va le démontrer, n'est-ce pas? Absalom n'est pas choisi par Dieu. Et David est choisi par Dieu. Deuxième chose que David révèle, c'est « l'Éternel est vérité et fiabilité ». Et tout au long de son développement, le psalmiste a montré ce qui caractérise l'Éternel. Il est notre rocher, notre retraite, notre espérance, notre gloire, notre force, la source de la bonté. Il est aussi le juste juge. Et c'est ce que Jérémie 17, verset 10 déclare. « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite aux fruits de ses agissements. » David exhorte à travers son expérience de vie, toute femme, tout homme, à se confier à l'Éternel. Il tue en quelque sorte l'illusion d'une puissance qui viendrait des hommes ou d'un quelconque pouvoir que les hommes auraient. C'est en l'Éternel seul, que se repose la gloire de l'homme. Alors en conclusion, cette invitation de David ne concerne pas seulement les gens de son temps. Elle nous concerne aussi aujourd'hui. Elle est d'actualité. La venue de Christ sur la terre vient nous rappeler que l'Éternel veut et continue de sauver les hommes. Nous sauver de quoi? D'une vie peu consistante. Une vie faite d'illusions, une vie faite d'un quelconque, un pseudo-pouvoir, mais une vie surtout remplie de convoitise. Seul l'Éternel mérite notre confiance. L'adversité n'est pas une fatalité. Elle fait partie de la vie. Le monde atteint par le péché vit la souffrance qu'il charrie. Et il en est ainsi, il en sera ainsi jusqu'au retour de Christ. Mais la parole de Dieu met en garde. En 2 Timothée 3, verset 5, au sujet des hommes, dans les derniers temps, je cite, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Autrement dit, de nos jours, beaucoup sont des chrétiens nominaux. Et on peut l'observer dès qu'il y a l'adversité. Dès qu'il y a l'adversité, tout ce qui est dans le cœur ressort avec une telle puanteur. La réaction de David est un bel exemple de ce que nous sommes appelés à vivre. Mettre sa confiance en Christ est essentiel. Jésus-Christ vient frapper à la porte de ton cœur. Comme David vient de nous l'enseigner, trouvons une relation de réconfort, la paix, une espérance solide en Christ. La confiance n'est pas dans les tatouages, elle n'est pas dans les membres de ta famille, elle n'est pas dans tes amis. Elle est en Christ. Elle est capable de conduire ta vie, certainement, au bon port. Comme Pierre avec les autres disciples, osons faire confiance à l'Éternel. Il agira avec puissance pour sa gloire. Amen.